membres de leur mouvement rassurent la junte qui multiplie les concertations. Un régime est tombé, une nouvelle page s'ouvre pour le Burkina Faso. Tout s'est passé si vite et la vie a repris son cours normal à Ouagadougou. Mais que réserve l'avenir à cette nation aux prises avec la menace djihadiste? C'est la grande question. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Merci beaucoup Lamine. Et à présent, nos invités pour ce débat à Ouagadougou, nous avons Siaka Koulibaly, analyste politique sur place. À Kinshasa, en RDC, nous avons Dani Aïda, il est le directeur résident du NDI en RDC. Avant cela, vous avez été en poste au Burkina Faso. Et à Conakry, Issaka Soare, expert en médiation, consultant. Vous êtes l'auteur de « Guerre civile et coup d'État en Afrique de l'Ouest ». Alors, merci à tous. Siaka Koulibaly, je démarre avec vous. On savait déjà que ça grondait hein, dans l'armée, surtout depuis l'attaque d'Inata, qui avait fait 53 morts dans les rangs de la gendarmerie. Alors, le pouvoir a remanié le gouvernement et a apporté des changements dans le commandement de l'armée, mais apparemment, cela n'a pas suffi. Êtes-vous surpris par ce coup de force?
Comme beaucoup d'observateurs, il n'y a pas une grande surprise pour les événements de ces ces derniers jours, dans la mesure où la tension était assez vive depuis un certain nombre de semaines, voire des mois, notamment au niveau donc de l'armée. Comme vous le savez, le Burkina est rentré dans le cycle de l'insécurité à partir de 2016. Et de 2016 à maintenant, il n'y a pas eu une amélioration de la situation et le rapport de force était en défaveur donc de l'armée nationale burkinabé. Et cela était de plus en plus insupportable pour les hommes en tenue qui ont manifesté de plusieurs manières leur mécontentement quant à l'équipement, quant à l'organisation, quant à l'encadrement des personnels sur le terrain. Alors, en début janvier, on a entendu parler d'une tentative de coup d'État, à l'issue de laquelle un officier supérieur a été mis aux arrêts. Il avait été dit qu'il y avait 12 autres personnes qui étaient arrêtées également. Et finalement, un vrai coup d'État s'est déroulé à partir du 22. Et la proclamation a été faite le lundi 23 janvier.
Donc c'est un peu un processus. Alors, Dani, l'incursion des militaires dans le jeu politique burkinabé n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Est-ce que vous voyez quand même une différence entre les précédents coups et celui-ci?
Oui, ce qui peut être considéré comme nouveau est lié certainement au contexte hein, qui, ces derniers mois, n'a pas été assez volatile. Le plan sécuritaire, beaucoup plus une très grande partie du Burkina Faso, occupé par des forces djihadistes, où l'État n'a plus de contrôle, l'autorité de l'État est absente. Il y a deux mois encore, c'était à les uns les autres. On a le sentiment qu'il y avait un grand mal. Maintenant, c'est la première fois que l'armée intervient dans le jeu. Et quand même, depuis 1987, avec l'assassinat de Soukara, et puisqu'il est venu 27 ans, Escompaoré a été emporté par un soulèvement populaire en 2014. Le processus politique qui a commencé en 2014 pour nous observateurs avait laissé à croire quand même que les institutions burkinabènes devraient être préservées de cette immixtion de l'armée dans le jeu politique. C'est le seul côté qui surprend. Sinon, les conditions étaient assez délétères, le pays était assez divisé sur le plan politique, même s'il y avait une instabilité par rapport à la majorité qui dirigeait le pays.
D'accord. Alors, Issaka, est-ce que vous voyez, disons, un effet domino dans la région après le Mali, la Guinée et même le Tchad qui fait partie du Sahel? Ou bien c'est plutôt. Il y a une certaine spécificité dans ce coup-ci ou dans chaque coup?
C'est difficile de parler d'effet domino, mais c'est difficile aussi de l'écarter totalement. En effet, les quatre coups d'État que vous avez mentionnés ont des particularités. Les cas maliens et burkinabés se ressemblent dans ce sens qu'ils ont ciblé des présidents qui venaient d'entamer leur second mandat pour lesquels ils étaient suivis et qui faisaient face aussi à des défis de sécurité et parfois aussi, je pense, c'était des défis aussi de gouvernance. Alors qu'en Guinée, c'était presque la question de gouvernance sous l'ancien président qui avait tout fait pour modifier la constitution afin de se permettre d'avoir un troisième mandat et la situation était bien délétère dans le pays. Alors qu'au Tchad, c'était pour garder le pouvoir au sein de la famille. Mais on peut aussi voir aussi qu'ils s'inspirent les uns des autres. Il y a des termes, des mots qui sont utilisés par les uns et les autres et on peut dire que peut-être qu'il y a aussi pour les Burkinabés, voir qu'au Mali, il y avait un président qui était démocratiquement élu, qui venait à peine d'être réélu, et on a réussi à faire un coup d'état contre lui, on a mis en avant la question de son incapacité de venir à bout avec l'insécurité. Donc cela pourrait leur donner des idées. Donc je pense qu'il y a...
Et on voit que ce sont tous des jeunes officiers, ils sont tous très jeunes.
Exactement, ça c'est aussi une ressemblance qu'on peut voir, mais je pense qu'on est loin des temps, quand par exemple vous prenez la décennie de 70 où il y a eu 25 coups d'état militaires sur le continent ou les deux décennies suivantes, de 80 à 2000, où il y a eu 15 coups d'état réussis dans chacune de ces deux décennies. On est encore loin de cela pour parler de contagion, mais il y a des ressemblances qu'on peut
remarquer. D'accord. Alors, Siaka, est-ce que justement à Ouagadougou, on fait un peu un rapprochement ou une comparaison avec ce qui se passe ailleurs, notamment au Mali?
Cela n'est pas dit officiellement dans la mesure où les nouvelles autorités n'ont pas encore... en plus de leur proclamation du lundi 23, n'ont plus donné... des déclarations officielles. Si bien qu'il est assez difficile de retrouver dans leur approche de la situation un rapprochement éventuel avec les autorités de transition au Mali. Mais cependant, dans la population, il y a des appels incessants et les manifestations de soutien aux militaires à la tête du pays au Burkina Faso ont vu des groupes de jeunes afficher des drapeaux de la Russie et au micro également appeler les autorités à faire appel à la Russie. Et c'est ce point qui peut permettre d'établir une corrélation entre la situation du Burkina Faso nouvelle et celle donc du Mali en cours déjà.
Oui, allez-y.
Voilà. Ceci dit, le recours donc à la Russie n'est pas une question facile à régler dans la mesure où c'est une question stratégique. Donc là-dessus, il est très difficile de s'aventurer puisqu'on ne sait pas qu'est-ce que les militaires à la tête du pays au Burkina Faso ont comme conviction sur cette question-là. Mais ceci dit, on peut dire que leur présence déjà à la tête du pays peut permettre d'au moins d'équilibrer le rapport de force entre les groupes terroristes et l'armée nationale dans la mesure où certains dysfonctionnements entre les unités qui combattaient le terrorisme et l'organisation des services de l'armée, l'équipement, il y avait beaucoup de questions qui étaient liées à la décision politique du président Kaboré. Donc on pense que ceux qui viennent de prendre le pouvoir peuvent savoir exactement qu'est-ce qu'il faut corriger pour au moins équilibrer le rapport.
On pourra d'ailleurs revenir un peu sur cette question sécuritaire en seconde partie. Alors, Dani Aïda, les questions de la bonne gouvernance et de ce qu'on appelle de plus en plus les coups d'État constitutionnels sont aussi souvent évoquées pour expliquer la prise du pouvoir par les militaires. Pour le cas du Burkina, quand même, le président Kaboré a été réélu pour un second mandat il y a juste un peu plus d'un an. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Je ne sais pas s'il y a vraiment une explication, mais il y a vraiment un constat de qu'on peut appeler le dépérissement de l'État au Burkina Faso qui a affecté les institutions démocratiques du pays. Au point que le dialogue, il y a un ministre d'État au Burkina Faso, chargé de la réconciliation nationale, qui est dans un pour essayer d'accorder des prêches entre les fils et filles du pays. Mais quand on voit le cheminement qui n'a pas été, on ne peut pas défendre justement que l'armée ait un rôle de régulation à jouer.
On espère qu'on a quelques petits soucis avec la connexion de Kinshasa, en espérant que ça va se régler tout de suite. Alors Issaka, quand on voit des présidents élus ou réélus avec des marges assez confortables, qui sont ensuite renversés par des militaires qui semblent, quoi qu'on dise, bénéficier d'un certain soutien populaire, qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion?
Bon, d'abord, je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la gouvernance dans un bon nombre de nos pays. Quand on voit par exemple le cas de la Guinée, un président qui a été élu, qui s'était battu pour la démocratie, qui à la fin de ses deux mandats veut tout faire pour modifier la constitution afin de s'y maintenir, cela peut faire réfléchir. Mais comme vous avez dit, au Burkina Faso et au Mali, c'était des présidents qui venaient à peine d'être élus pour passer leur mandat. On peut constater des problèmes de failles dans leur gestion. Au Mali surtout, je pense que les gens avaient beaucoup d'espoir au président Ibeka et puis en pouvoir, il y a une petite corruption à ça. Mais est-ce que cela justifie que des militaires se substituent ou s'érigent en régulateurs de la gestion publique? Ça, c'est autre chose. Autre question maintenant, qu'est-ce qui explique le soutien dont bénéficient les militaires lorsqu'ils viennent au pouvoir? Je pense que c'est classique. Il y a beaucoup évaluer, parce que la question est posée souvent, c'est un bon coup d'État. Je pense que les coups d'État ne peuvent être qualifiés de bons qu'à fortiori. Et moi, j'ai développé une formule pour évaluer la bonté des coups d'État, si je me le permets. Je pense que dès le coup d'État, il y a une euphorie. Et ça, c'est par rapport souvent au régime déchu. Donc, la population sort, ils applaudissent. Généralement, ce n'est pas pour applaudir pour les militaires qui sont venus, mais pour applaudir contre le régime déchu. Donc, dans ces premiers mois, je pense que l'émotion est vive et les promesses aussi qui sont celles des militaires font rêver. Donc, cela peut expliquer la sortie. Maintenant vient le problème de la gestion du pouvoir. Qu'est-ce que les militaires vont faire pour justement mettre en œuvre les promesses des premières heures? Enfin, quand ou comment les militaires se procèdent en ce moment-là et on dit que ce fut un bon coup.
D'accord. Alors, nous allons lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Archiduc Théodore à N'Djamena qui nous dit que la colère des militaires burkinabés est née de l'inefficacité du système sécuritaire mis en place pour lutter contre les attaques répétées des djihadistes. Cela pourrait affecter tous les autres pays du Sahel et il faudrait que les gouvernements cherchent de bons partenaires en sécurité avec des moyens sophistiqués. Et puis Alphonse Mbouaké à Kinshasa nous dit il n'est pas sûr que l'arrivée des militaires au pouvoir dans la sous-région soit une panacée à la neutralisation définitive des groupes terroristes. Il faut des programmes de développement pour que les populations sortent de la pauvreté et ne soient pas donc séduites par des recruteurs djihadistes. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. De VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités à Ouagadougou, Siaka Koulibaly, analyste politique. À Kinshasa, nous avons Dany Aïda, directeur résident du National Democratic Institute en RDC. Et vous avez également servi au Burkina Faso. Et à Conakry, Issaka Soare, consultant expert en médiation, auteur de Guerre civile et coup d'État en Afrique de l'Ouest aux éditions L'Harmattan. Alors, Siaka, l'insécurité causée par les attaques djihadistes est la principale raison évoquée par les militaires. Comment leur arriver au pouvoir pour affecter la lutte contre le terrorisme?
Je peux penser que la direction des opérations par des spécialistes, notamment des militaires, est peut-être un facteur favorable à l'éradication des groupes terroristes, ou du moins la possibilité de les contenir en des zones restreintes, limitant donc leur incidence sur la situation nationale, la sécurité et le développement national. Et si vous faites le bilan également dans la sous-région ouest-africaine, dans le Sahel, le bilan est en faveur des militaires. Vous avez d'abord, on commence par la Mauritanie, où depuis 2011, il n'y a plus une seule attaque. Le pays était dirigé par un militaire, remplacé par un autre militaire, ce qui a certainement permis de faciliter les résultats de la Mauritanie.
Les anciens militaires, quand même, hein?
Oui. Ils sont quand même des spécialistes du domaine, mm-hmm. Même s'ils ont quitté les rangs, ils agissent toujours comme des militaires. C'est peut-être plus facile qu'un civil pur, je veux dire. Mm-hmm. On prend également le Tchad, qui relativement fait face à des rébellions formelles depuis très longtemps et réussit à contenir également le phénomène. On vient tout de suite au Mali, où, en quelques mois seulement, les résultats, je ne vais pas développer là-dessus, vous pourrez vous-même faire le constat, les résultats sont édifiants en matière de lutte. On n'entend plus d'attaques en ce qui concerne le Mali. Et on voit que, j'ai des exemples précis, comme la commune de Dogofri, dans le cercle de Niono, qui, pour la cinquième semaine consécutive, le marché s'est réuni avec des opérateurs venus de tout le cercle.
D'accord.
Alors que ça faisait plus d'une année que ce marché ne se réunissait plus.
D'accord.
Donc, il y a plein de résultats comme ça qui montrent qu'au Mali aussi, la situation est en train de s'améliorer.
D'accord.
Le cas spécifique du Burkina Faso.
Oui, allez-y rapidement. Je voulais quand même demander à Aïda, peut-être que vous aurez l'occasion, s'il y a cas de revenir. Dany, les militaires au pouvoir, une bonne ou une mauvaise chose dans la lutte contre le terrorisme?
D'abord, je ferai remarquer que la lutte contre le terrorisme n'est pas une affaire militaire, sinon on aurait trouvé déjà des solutions. Les militaires qui viennent de prendre le pouvoir au Burkina Faso sont les mêmes qui étaient au front. Hein. On a vu combien de fois Roch Kabore a changé de ministre de la Défense, a changé de généraux à la tête d'état-major plus d'une fois. Je pense qu'il y a eu toujours une requête de solution. Maintenant, il y a d'autres facteurs. Et je crois que l'extrémisme violent qu'on voit dans le Sahel, y compris au Burkina Faso, la radicalisation qu'on voit, c'était une crise endogène de la gouvernance dans ce pays-là. Donc, les armées sont formées pour affronter des adversaires, des ennemis qui sont extérieurs. Il y a des solutions à forger. Il se fait que le nouvel enfant du Burkina Faso se dit expert à la matière de lutte contre le terrorisme. Si c'est le cas, ça peut être depuis 2 ou 3 mois qu'il trouverait une solution définitive. Mais c'est le cas également. Il l'aurait fait auparavant puisqu'il était déjà impliqué.
Peut-être qu'il n'a pas il n'a pas les coups de franche partout. Il fait un homme de terrain. On peut répondre à, peut-être que ses partisans pourraient répondre à cette question en disant qu'il n'avait pas peut-être les moyens ou n'avait pas toutes les décisions. Allez-y.
Oui, tout à fait. Bon, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, on observe, hein, il y a peut-être une période d'état de grâce qu'on peut lui accorder. Voilà. Mm. Sinon, le Blébou qui n'a pas fait plus d'une expérience de gestion militaire, là qui a fait un soulèvement populaire civil en 2014 ne fasse plus appel à l'armée, surtout qu'en 2015, le même peuple a fait échec à un coup d'État militaire. Donc, la question de l'insécurité et de gouvernance qu'on met en balance, à mon avis, l'armée n'est pas la solution pour Burkina Faso.
Alors, Issaka, quand même l'inquiétude, hein, l'insécurité persistante dans le Sahel, est-ce que cette insécurité peut avoir raison des systèmes politiques et créer carrément une instabilité institutionnelle, puisqu'on a vu qu'au Burkina, et même avant, au coup d'État, dans le coup d'État de 2012 au Mali, la raison était essentiellement liée aux attaques terroristes.
Cela va dépendre de comment les dirigeants dans les différents pays concernés vont réagir à cette situation. Et je pense qu'en faisant un retour rapide à la dernière question, je suis d'accord avec Dali que la lutte contre le terrorisme ne doit pas être focalisée sur une seule approche, notamment celle sécuritaire. Je pense qu'il faut une approche multiforme parce qu'il faut voir aussi les causes de l'insécurité, les questions de développement, les questions de sécurité. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui s'engagent dans le groupe armé qui le font par des considérations idéologiques. Certains sont là vraiment pour avoir un gagne-pain. Alors, comment est-ce que cela pourrait évoluer à l'avenir? Je pense que aux différents pays et leurs leaders de jouer sur les facteurs de conflit, et ces facteurs, comme je viens de le dire, sont d'ordre politique, d'ordre développemental, c'est-à-dire économique, d'ordre social aussi pour la cohésion sociale. Donc, il s'agit de jouer sur cela. Deuxièmement, évidemment, il ne faut pas écarter les besoins militaires. Les forces de défense et de sécurité sont là pour protéger l'intégrité territoriale de leur pays, mais aussi la sécurité humaine des populations. Donc, il faut avoir des forces de défense et de sécurité qui sont bien formées, qui sont mises dans les conditions idoines et optimales pour leur permettre justement de s'acquitter de leur mission. Parce qu'il ne faut pas aussi les laisser affamés et les envoyer au front sans équipement. Ça, ce serait envoyer les gens à la mort. Donc, troisièmement, je pense qu'il faudra aussi que les États, au-delà de leurs efforts individuels, se conjuguent les efforts, et ça c'est au niveau des institutions régionales, la CEDEAO, je vois, surtout en Afrique de l'Ouest, pour que la force en attente ne soit plus en attente, parce qu'elle a duré dans son attente. Et cela, il faut mobiliser les moyens. Je ne pousse pas l'idée souvent de dire que les États africains n'ont pas les moyens pour rééquiper leurs forces. Je pense qu'il faut prendre ça comme une question prioritaire.
D'accord.
Donner le
Alors, à psychologie. On va peut-être, on n'a pas beaucoup de temps, on a quelques secondes, donner le dernier mot à M. Koulibaly. Vous êtes à Ouaga. Quelle leçon pour vous, pour la CEDEAO? La CEDEAO se réunit vendredi pour statuer sur le cas du Burkina. Rapidement.
Oui. Je pense que la CEDEAO se trouve actuellement dans une situation difficile parce qu'elle doit décider pour une situation pour laquelle elle a pris des décisions il n'y a pas très longtemps et que ces décisions de sanctions contre le Mali ont suscité une levée de boucliers dans les pays environnants, même un peu plus loin en Afrique. Donc, ensuite, il n'y a que les sanctions n'ont pas...
Monsieur Koulibaly, on va certainement revenir sur cette question spécifique de la CEDEAO et des règlements de conflit. On me dit qu'on arrive à la fin de cette émission. Je remercie tous mes invités et également ceux qui nous suivent à travers nos télépartenaires sur le continent et sur notre site voafrique.com, également sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. Au revoir.